Le débat du jour. Romain Ozoui.
Le début de semaine a été marqué par des annonces pour tenter de faire venir les chercheurs américains qui sont aujourd'hui menacés par les mesures de l'administration Trump. 500 millions d'euros débloqués par Bruxelles, 100 millions par la France. Toutes ces annonces ont eu pour cadre l'événement intitulé « Choose Europe for Science » qui s'inscrit dans le sillage de « Choose France for Science », preuve que la mobilisation est grandissante. Oui, mais l'Europe peut-elle accueillir les chercheurs américains? C'est la question que nous posons ce soir dans le débat du jour. En a-t-elle les moyens? Alors que dans ce domaine, la situation dans les États membres est loin d'être parfaite. Quel est l'enjeu de ce défi? En d'autres mots, est-ce que l'Europe peut devenir la référence mondiale de la recherche? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités en studio, à mes côtés, Claire Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au sein de l'Institut de recherche en informatique fondamentale, membre de l'Académie des sciences. Face à vous, Théo Besson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en psychologie sociale à l'Université Paris-Cité. Et notre troisième invité en ligne avec nous, Boris Gralac, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général du Syndicat national de la recherche scientifique, le SNCS-FSU. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Claire Mathieu. Après un peu plus de 100 jours de l'administration Trump, est-ce qu'on peut évaluer les conséquences des attaques menées par le président américain?
Les attaques contre les universités,
contre la recherche
et les sciences sont absolument dramatiques. L'impact est tragique. Si je prends par exemple le NOAA, qui s'occupe de recherche autour du climat, depuis le mois de janvier, il y a à peu près 2000 personnes qui ont quitté leur emploi là-bas. C'est à peu près 20%, 20% des employés du NOAA. Là, c'est juste en 3 mois.
Ouais.
Et pour le projet de budget pour l'an prochain, Trump propose une baisse de 23% du budget de la recherche en général. C'est-à-dire 40 millions d'euros.
Ouais. Plus de 5 milliards. Alors, je vais compléter ce que vous dites. Hein. J'ai complété le tableau. Plus de 5 milliards de dollars par an au moins au NIH. Ça, c'est le principal financeur de la recherche médicale du pays. 2 milliards en moins à Harvard, l'université Harvard. Plus de 2000 emplois supprimés à l'université Johns Hopkins, qui est leader dans la recherche médicale. Il y a péril dans la demeure. Les chercheurs américains doivent quitter impérativement les États-Unis.
Ceux qui sont citoyens américains, non. Ceux qui ne sont pas citoyens américains, il y a aussi des problèmes de visa, de carte verte, d'annulation de visa. Donc il y a aussi des jeunes chercheurs en particulier qui soit n'ont pas le droit d'y aller, soit doivent partir.
On va pas refaire un débat qu'on a déjà fait, à quel point la recherche, parce que c'est un sujet effectivement très important et on avait traité dans le débat du jour, la recherche mondiale est-elle menacée, mais quels domaines sont concernés en premier lieu par les coupes de l'administration Trump?
Il y a des domaines qui sont particulièrement ciblés. Il y a les sciences humaines et sociales avec l'histoire, la sociologie. Il y a le climat et il y a la santé en particulier. Il y a aussi tout ce qui est l'espace aussi. La NASA a aussi une perte importante, des coûts budgétaires très importantes.
Théo Besson, est-ce qu'on peut comparer recherche, en quelques mots, recherche américaine, recherche européenne, pour savoir si on est sur un deux poids deux mesures?
Oui, bien sûr qu'on peut comparer la recherche européenne et la recherche américaine. Il y a plusieurs points pour les comparer. L'Europe a des atouts très importants, un financement relativement important de la recherche. Il y a de nombreux chercheurs et chercheuses qui travaillent en Europe. Aux États-Unis, évidemment, aussi. Maintenant, les différences majeures se trouvent au niveau du financement. Et les États-Unis ont des investissements beaucoup plus importants dans la recherche que ne l'a l'Union européenne. À titre de comparaison, les États-Unis, en 2021, c'était 3,46% de leur produit intérieur brut était destiné à la recherche et développement, contre contre 2% et quelques pour l'Union européenne. Et pour la France, précisément, on parle de 2,22%, donc nettement moins.
On va rentrer dans le vif du sujet. Que vous inspire ce qui s'est passé en début de semaine? Donc ce fameux Choose Europe for Science, événement qui s'est tenu à la Sorbonne à Paris, sous la houlette du président français Emmanuel Macron, et qui a annoncé effectivement le déblocage de sommes importantes, 500 millions d'euros, ça c'est côté Europe, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a annoncé le déblocage de 500 millions d'euros à destination des chercheurs américains pour tenter de les faire venir en Europe. Le président français aussi y est allé de son carnet de chèques avec 100 millions d'euros, donc ça fait 600 millions d'euros.
Ouais. Alors, au niveau français, hein, parce que c'est celui que je connais le mieux, je dois bien reconnaître que le sentiment est un peu partagé. D'un point de vue positif, commençons par là, je trouve que c'est intéressant et c'est positif que le gouvernement français prenne la mesure justement de l'état de la recherche américaine en ce moment, qui est, comme le disait madame, dramatique. Et donc, c'est bien d'essayer d'aider les collègues américains qui sont en grande difficulté. Maintenant, d'un point de vue plus négatif, 100 millions d'euros pour la recherche, c'est extrêmement peu, soyons réalistes. C'est très peu de... C'est un gros chèque, mais c'est très très peu d'argent. Par exemple, une université comme la mienne, c'est un budget d'environ 700 millions d'euros.
Ouais.
Donc 100 millions d'euros, c'est une goutte d'eau. Parce qu'il y a plein d'universités, évidemment. Et évidemment, en plus, ce que nous a dit Philippe Baptiste il y a quelques semaines, c'était qu'il envisageait d'allouer 1 million d'euros de budget par chercheur américain pour financer son salaire, l'embauche d'un postdoc et l'achat du matériel, ce qui sont des conditions de travail qui n'existent pas actuellement en France, ou en tout cas très très peu en France. Donc il y a un espèce de deux poids, deux mesures un peu particulier, quoi.
Boris Garlac, vous êtes d'accord, c'est une goutte d'eau? Alors, c'est 100 millions d'euros, on va ajouter les 500, c'est peut-être moins une goutte d'eau.
Ça, c'est moins une goutte d'eau.
De la Commission européenne. En tout cas, est-ce que c'est suffisant pour sauver la recherche américaine?
Tout à fait. Je confirme que ces financements qui ont été annoncés en début de semaine par le président Macron, donc 100 millions au niveau de la France et 500 millions au niveau de l'Europe, c'est même moins qu'une goutte d'eau.
Ouais.
Il faut imaginer, par exemple, que si la France voulait investir 3% de son produit intérieur brut dans la recherche et développement, ce qui devrait être un objectif qui devrait être atteint depuis 2010, ce sont 8 milliards qu'il manque au budget de la recherche publique et 15 milliards d'euros d'investissement annuel supplémentaire par le secteur privé. Donc quand on nous parle de 100 millions, ça représente à peu près 1% de ce qu'il faudrait d'augmentation du budget de la recherche cette année en 2025. Donc oui, on parle vraiment d'une goutte d'eau. Et en pratique, cela se traduit comment ? Cela se traduit par le fait que les rémunérations des scientifiques en France sont largement en dessous de ce qui se fait aux États-Unis, mais aussi dans la moyenne de l'OCDE. Il faudrait augmenter les rémunérations des scientifiques en France de 50% pour qu'ils soient au niveau. Et on l'a dit aussi, c'est aussi une question, par exemple, des conditions de travail qui sont absolument pas au niveau. Les chercheurs en France, les scientifiques, ils n'ont pas de financement suffisant pour exercer leur recherche dans des conditions satisfaisantes.
Mais justement, dans ce contexte-là, est-ce que la France, est-ce que l'Europe, vu la situation dans les États membres, peut en faire plus à l'égard des États-Unis ?
Mais ce qu'il faudrait, déjà, tout d'abord, faudrait remettre à niveau le financement de la recherche en Europe. Alors après, la situation est hétérogène suivant les pays. Il y a des pays comme l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la Suède qui investissent suffisamment. Mais il y a d'autres pays, et en particulier la France, mais il y a aussi l'Italie et l'Espagne, qui sont aussi des grands pays et qui investissent de façon très insuffisante. Et il faudrait que tous les pays fassent l'effort suffisant pour élever le niveau d'investissement dans la recherche qui est essentiel.
Ça, c'est un enjeu important, Claire Mathieu. Est-ce que la mobilisation européenne à l'égard des chercheurs américains, elle risque d'être minée par les divisions européennes ?
Par les divisions européennes, je ne sais pas, mais je crois que c'est un enjeu important. La France est un petit peu moins de 20% de l'Union européenne, je crois, dans sa contribution. Donc, si, imaginez qu'on veuille prendre le financement de la recherche le trou qu'il va y avoir aux États-Unis l'an prochain, et qu'on veuille le transférer à l'Europe. Donc, il faudrait que l'Europe contribue plusieurs dizaines de milliards d'euros, disons 40 milliards si Trump a tout ce qu'il veut, comme coupe. La contribution de la France, ce serait à peu près 7 milliards. Donc, il faudrait 7 milliards en plus l'an prochain, pour la recherche en France, c'est énorme. Et comment les gouvernements européens peuvent-ils faire ça ? Il faudrait qu'il y ait vraiment un mouvement en faveur de la recherche, que la population, d'abord, soit convaincue que financer la recherche, c'est une priorité.
Ouais. Mais ça, c'est quoi? Ça passe par une campagne de sensibilisation? Pardon, mais l'Europe, elle a, j'allais dire, d'autres choix à fouetter, dans le sens où il y a une Europe de la défense à mener, et on est dans une période d'économie principalement. Est-ce que c'est la priorité d'allouer ces budgets à la recherche?
Alors, bien évidemment, on l'a vu lundi, ce n'est pas actuellement la priorité. Le montant, c'est bien, hein, c'est mieux que rien, mais c'est quand même un petit peu symbolique par rapport aux besoins. Maintenant, ce que j'ai lu là ces mois derniers, quand les Américains commençaient à s'émouvoir des coupes pour la NIH, la recherche médicale aux États-Unis, ils disaient $1 investi pour la recherche dans la NIH, c'est $3 pour l'économie à la fin. Donc en fait,
c'est porteur.
Du point de vue, si on se place du point de vue strictement utilitariste, hein, on veut mettre de l'argent pour récupérer plus d'argent après, ça vaut la peine de financer la recherche. Si on veut financer la recherche fondamentale, pourquoi? On ne sait pas ce que ça va donner maintenant, mais on sait que plus tard, pour la génération de nos enfants, c'est ça qui transforme le monde.
Je ne vous ai pas fait réagir, vous, à la mobilisation en début de semaine Choose Europe for Science. Un peu plus d'une goutte d'eau, nous disait Théo Besson. Moins d'une goutte d'eau, nous disait Boris Gralac, sur ces 600 millions d'euros, donc Europe plus France. Vous, vous en pensez quoi?
Alors, sur les 500-600 millions d'euros de l'Europe...
Comment vous jugez cette initiative, en tout cas? On ne va peut-être pas rentrer
bon,
dans le détail des chiffres.
On donne de l'argent pour la recherche, on ne va pas cracher dessus.
Ouais, complètement. Hein?
Donc, déjà, c'est déjà bien. On parle de la recherche, on dit que la recherche est importante. C'est vrai, tout ça. Donc, tout ça, c'est bien. Bon, après, le montant est très insuffisant. Bon, ça, on le reconnaît.
Est-ce qu'il devrait d'abord aller aux recherches nationales? Avant d'aller dans l'idée de sauver la recherche américaine.
On peut dire que c'est un geste de solidarité. On peut voir ça comme un geste de solidarité. Normalement, ça devrait être en plus de l'argent qui devrait être utilisé pour soutenir la recherche française. Ce qui est un petit peu gênant, c'est que le mécanisme français des 100 millions, c'est un cofinancement. C'est-à-dire que le gouvernement apporte de l'argent à condition que l'établissement qui héberge la personne qui va arriver des États-Unis ou d'Argentine ou d'ailleurs, ce n'est pas forcément les États-Unis, apporte le même montant, 50%. Autrement dit, on prend ces universités qui sont déjà presque toutes en déficit et on dit, on va vous donner de l'argent pour accueillir un chercheur étranger en plus, mais à condition que vous mettiez aussi de l'argent. Vous preniez de l'argent alors que vous êtes en déficit, que vous avez plein de problèmes, qu'il y a eu des coupes budgétaires en France, et on vous demande quand même de donner de l'argent en plus pour pouvoir financer ces chercheurs. Donc ça, c'est un côté, c'est pas très sain.
Ouais. Théo Besson, finalement, c'est un geste de solidarité, disait Claire Mathieu, j'irais même un peu plus loin. Est-ce que c'est d'abord symbolique et que ça n'aboutira pas?
Ah si, je pense que ça va aboutir.
Ça va aboutir, donc il y a la possibilité, c'est notre question, d'accueillir les chercheurs américains.
Il y a des chercheurs américains qui vont arriver. Apparemment, Aix-Marseille disait que les, je crois que c'est les 15 premiers qui devraient arriver en juin.
Non, mais la question, c'est à quel point c'est massif. Parce que s'il y en a quelques dizaines, quelques centaines, c'est par tentatif.
A priori, ce ne sera pas massif. Enfin, je veux dire, de ce que j'ai compris des annonces gouvernementales, on parle de quelques centaines tout au plus. Donc, compte tenu des milliers de chercheurs, chercheuses qu'il y a en France, c'est vraiment pas beaucoup. Maintenant, de toute façon, tous les chercheurs américains ne sont pas amenés à venir travailler en France. Je veux dire, il y a plein de pays dans le monde dans lesquels ils vont aller travailler. Voilà. Et donc, la France n'a pas à vocation à absorber l'intégralité des chercheurs qui font partir des États-Unis.
L'Europe non plus.
Ils font bien ce qu'ils veulent, par ailleurs. Maintenant, il y a des chercheurs américains qui vont arriver. C'est pas juste symbolique, je suis d'accord avec Mme Mathieu. C'est-à-dire que il va y avoir vraiment des chercheurs américains qui vont pouvoir bénéficier de ce geste de solidarité. Maintenant, je pense que collectivement, on aurait aimé que ce soit un geste effectivement qui n'implique pas pour les organismes de recherche et les universités de cofinancer ces arrivées. Parce qu'effectivement, on n'a déjà pas d'argent pour nous. En général, concrètement, dans les laboratoires, on a déjà des difficultés au quotidien. Et puis, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais toujours
c'est
est-il que, voilà,
Je reprends ce que vous avez écrit dans Le Monde, hein, dans votre tribune. Accueillir les chercheurs américains en France, une ambition louable, mais irréaliste.
Oui, bah parce que moi, je suis convaincu que cette solidarité, elle est essentielle et que dans le monde de la recherche, on est tout à fait solidaire. Ce que je vois aussi, c'est que la France, pour ne parler que d'elle, c'est un pays qui investit finalement assez peu dans sa recherche et son développement. Ce qui se traduit dans les labos par déjà un tiers du bâtiment universitaire est délabré. Enfin, je veux dire, c'est un rapport de la Cour des comptes. On a du mal déjà à financer nos propres recherches, ce qui se traduit par une diminution. Hein. C'est le seul pays de l'Union européenne quand même qui a eu une baisse de la productivité scientifique entre 2015 et 2019. Et puis, par ailleurs, on paye assez mal, comparativement, hein, les enseignants-chercheurs et les chercheurs français. Mmh. Et par rapport aux autres cadres du privé et du public, et par rapport à leurs confrères et consoeurs dans les autres pays européens.
Et c'est vrai qu'en France, la situation, elle est critique. Il y a 387 millions de crédits non affectés du budget 2025 qui viennent d'être annulés. Et d'une manière plus globale, 2%, ça c'est la chute, hein, du financement de la recherche publique en France en 5 ans, depuis 2019. Boris Gralac, est-ce que vous êtes d'accord avec Théo Besson quand il dit que l'Europe n'a pas vocation à accueillir les chercheurs américains ?
Non, j'ai pas dit ça. Hein.
Tous les chercheurs américains. Vous avez dit qu'il n'a pas vocation à accueillir tous les chercheurs américains.
Tous les chercheurs, oui.
Boris Gralac.
Merci. Il faut être très clair. Nous avons un devoir d'accueillir les scientifiques des États-Unis, et pas seulement des États-Unis, de tous les pays qui sont en danger. On l'a dit, il y a des scientifiques qui sont licenciés, il y a des scientifiques dans d'autres pays qui sont parfois mis en danger personnellement. Et il y a aussi des chercheurs, des scientifiques dont les activités de recherche sont entravées ou empêchées. On a un devoir de solidarité avec tous ces collègues, et il faut les accueillir. Et non seulement parce que on a un devoir de solidarité, mais aussi parce que nous avons besoin des recherches qu'ils effectuent, des résultats de leurs recherches. On a parlé par exemple des questions de sciences du climat, sur l'environnement, la biodiversité, les océans, tous les travaux qui se font aux États-Unis, on en a besoin directement, nous aussi, en France et dans le monde entier. La science, la recherche, c'est un bien commun. Et donc, nous avons intérêt, de toute façon, à faire en sorte que ces recherches se fassent parce que c'est utile pour tout le monde. Et au-delà des scientifiques qu'il faut accueillir, il y a aussi la question des données scientifiques qui sont menacés et qui sont actuellement aux États-Unis. Les menaces, c'est que nous, dans le reste du monde, nous n'y avons plus accès, ou bien tout simplement que c'est certaines de ces données scientifiques qui sont essentielles pour mener les recherches, ces données soient supprimées. Donc nous devons, de façon inconditionnelle, accueillir les scientifiques et également préserver les données scientifiques qui sont très importantes et qui sont sauvegardées aux États-Unis.
Mais si l'Europe doit accueillir les scientifiques américains, pourquoi est-ce que le Syndicat national de la recherche scientifique, dont vous êtes le secrétaire général, a publié ce communiqué lundi intitulé « Accueil des chercheurs internationaux en France », de qui se moque-t-on ?
Alors, nous avons également publié un communiqué qui est qu'il faut accueillir les scientifiques et investir massivement dans la recherche. En fait, la question, c'est les annonces qui ont été faites par le président Emmanuel Macron et la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. Pour nous, ça s'apparente plus à une opération de communication et une opération d'opportunité pour attirer quelques scientifiques et surtout quelques scientifiques dans des disciplines ou des secteurs qui sont, selon eux, qui seraient plus stratégiques. Pour nous, ce n'est pas du tout la philosophie qui devrait être adoptée. La philosophie qui devrait être adoptée, c'est qu'il faut accueillir de façon solidaire l'ensemble des scientifiques qui sont en danger et également accueillir ces scientifiques et la sauvegarde des données pour pouvoir préserver ce bien commun qu'est le progrès des connaissances par la recherche.
« L'Europe peut-elle accueillir les chercheurs américains? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, après cet événement Choose Europe for Science, qui a mobilisé 600 millions d'euros en faveur de la recherche américaine. Mes trois invités sont Brice Gralac, que l'on entendait, qui est secrétaire général du Syndicat national de la recherche scientifique, le SNCS-FSU, Théo Besson, maître de conférence en psychologie sociale à l'Université Paris-Cité, et Claire Mathieu, directrice de recherche au CNRS au sein de l'Institut de recherche en informatique fondamentale et membre de l'Académie des sciences. On a bien compris que finalement l'enjeu, c'est comment aider la recherche américaine sans mettre en péril les recherches nationales européennes qui sont mises à mal. Claire Mathieu, dès lors, quel type de recherche américaine est-ce que l'Europe peut aller chercher? Parce qu'on a compris qu'il y avait aussi un enjeu de à quel point. Alors, il y a une étude publiée dans la revue Nature qui dit que 75% des chercheurs américains sont prêts à venir en Europe, mais on a évoqué le fait que les salaires ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir aussi des freins côté États-Unis.
Il y a des freins, bien sûr. Le premier frein, c'est que les chercheurs qui sont déjà installés aux États-Unis depuis longtemps, ils ont leur famille, leur vie... Ouais. Leur emploi, s'ils ne sont pas licenciés, s'ils sont citoyens américains et qu'ils sont installés, je les vois difficilement, à ce stade, partir en Europe. Donc, ceux qui sont plus susceptibles de partir, à mon avis, ce sont les chercheurs de nationalité étrangère qui ne sont pas citoyens américains. Or, c'est grâce à ça que les États-Unis sont leaders mondiaux en recherche. C'est grâce au brain drain, au fait qu'ils ont comme chercheurs non seulement les Américains, mais aussi tous les gens qui viennent du monde entier. Et donc, tout cela, ils doivent se sentir un peu en danger actuellement. Et donc, pour peu qu'ils soient dans un domaine de recherche dont le financement est en train d'être tari ou gelé ou en difficulté, eh bien, eux, ils sont un peu obligés d'aller regarder ailleurs. Et dans ces cas-là, s'ils se sentent sous pression pour quitter les États-Unis, ben, l'Europe est un endroit naturel où quand même... On fait de la bonne recherche et il y a beaucoup d'excellents laboratoires. Et s'ils peuvent trouver une place pour les accueillir, peut-être qu'ils peuvent y être heureux.
À quel point ça peut enrichir l'Europe, ce projet de faire revenir des chercheurs qui vivent aujourd'hui aux États-Unis? À quel point ça peut changer le centre de gravité peut-être de la recherche mondiale, doper la recherche européenne? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu là-dessus, selon vous?
Il pourrait y avoir un enjeu, mais moi, ça me met un peu mal à l'aise de regarder cette catastrophe et de la retourner en faisant une opportunité. J'aime pas voir les choses comme ça.
Théo Besson ?
Non, je suis complètement d'accord. Je pense que la solidarité européenne est essentielle. Je pense que, puis je sais même que certains collègues américains sont intéressés à l'idée de venir s'installer en Europe. Maintenant, est-ce que ça peut
renforcer la recherche européenne, cette situation-là?
Avoir des nouveaux chercheurs et de nouvelles chercheuses, oui, ça peut venir renforcer la recherche
de manière significative.
Tout dépend de combien viendront. Dépend de combien viendront. Et donc, tout dépend de combien on financera.
Boris Gralac, votre avis sur le sujet?
Notre avis, c'est que. L'Europe, avant tout, si elle veut renforcer sa recherche et pouvoir contribuer, on va dire, à son progrès, il faut avant tout qu'elle investisse massivement, car elle est vraiment en retard globalement, qu'elle investisse massivement dans la recherche pour pouvoir, par exemple, se porter au niveau des États-Unis. De ce qu'ils investissent, eux, dans la recherche et développement.
Mais ça vous y croyez ça. Vous pensez que c'est possible, que c'est souhaitable? Encore une fois, il y a de la recherche dans les pays européens.
Bien entendu que c'est souhaitable et nous le demandons depuis 25 ans. L'Europe, au début des années 2000, s'était engagée collectivement et donc chaque pays à investir 3% de son PIB, de son produit intérieur brut, dans la recherche et développement. En France, au début des années 2000, on était à 2,2%. Aujourd'hui, on est encore à 2,2%. Donc, on n'a fait aucun effort supplémentaire. Et c'est vérifiable pour beaucoup de pays européens. Donc, la première condition pour revenir, pour être au niveau et être à la hauteur des enjeux qui sont très nombreux actuellement, en santé, dans la transition socio-écologique, et voilà, il y en a plein d'autres des enjeux. Pour être à la hauteur de ces enjeux, il faut absolument que l'ensemble des pays européens investissent à la hauteur dans la recherche et développement.
Claire Mathieu, on a entendu votre inquiétude. Vous voyez d'abord une situation dramatique pour les États-Unis avant de voir que l'Europe pourrait en sortir gagnante. Mais pour aller finalement d'une certaine manière dans votre sens, est-ce qu'au final, de toute façon, la recherche mondiale sera perdante ? Que l'enjeu est tel aux États-Unis aujourd'hui que quoi que fasse l'Europe, ça ne pourra jamais pallier les coupes engendrées par l'administration Trump ?
Jamais, c'est un grand mot, mais on n'en prend pas le chemin. Ouais. Donc je vois qu'il y a un désinvestissement massif aux États-Unis. Pour l'instant, on ne voit pas qu'il y ait un investissement massif en Europe. Donc c'est clair qu'il y aura moins de recherche dans le monde l'an prochain.
Ça va se traduire comment ?
Eh bien, si on regarde les conséquences immédiates de ce qui se passe aux États-Unis, il y a des morts. La recherche sur le sida, et je crois que beaucoup de programmes de recherche ont été brutalement stoppés. La recherche à la NSF, donc j'ai une collègue qui est allée voir les projets qui avaient été arrêtés dans notre domaine, l'informatique, et il n'y en a pas énormément parce que l'informatique ne fait pas partie des domaines cibles, mais quand même il y en avait peut-être une vingtaine, et tous ceux qui étaient arrêtés, c'était tous des programmes de recherche sur la désinformation. Les fake news et la désinformation. Donc cela n'est plus une priorité aux États-Unis. Donc vous imaginez, si on arrête de travailler là-dessus, pensez aux conséquences. Ce que j'aimerais déjà, c'est que en France, j'aimerais que quand on nous annonce un financement, après le financement, il arrive. Et comme le climat, c'est une priorité, je sais qu'en novembre 2023, Emmanuel Macron a annoncé un financement d'un milliard d'euros d'ici 2030 pour la recherche sur tout ce qui est polaire, les zones polaires, dont 100 millions d'euros pour rénover la station Raymond Durville sur le climat. Donc j'aimerais que ce soit débloqué.
Théo Besson, parce qu'on approche de la fin du débat, pour résumer, est-ce que finalement on peut dire que finalement l'Europe est un peu dans son rôle? On a parlé de devoir de solidarité. Il y a une proposition de loi en France de l'ancien président français François Hollande pour un statut de réfugié scientifique. Présidente de la Commission européenne qui veut un statut précis aussi d'inscrire la liberté de la recherche scientifique dans le droit. Mais ça va s'arrêter là. Mais c'est la responsabilité européenne qui est en jeu davantage que sa mission de sauver la recherche mondiale.
Je pense que il y a des bénéfices, on peut dire, indirects à ce qui est en train de se produire. On se rend compte des dommages qui se passent aux États-Unis et je crois que, effectivement, les propositions, notamment la proposition de François Hollande, la proposition d'Ursula von der Leyen, sont des propositions qui vont dans le bon sens pour protéger la science européenne. Donc ça, c'est en ça que je dis qu'il y a quelques bénéfices, on va dire. Voilà, la solidarité, c'est très bien. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place aussi pour essayer d'aider les collègues en difficulté. Maintenant, je pense que c'est insuffisant, en fait.
Insuffisant. Donc, pour répondre à la question, oui, l'Europe peut accueillir les chercheurs américains, pas tous les chercheurs américains, et on est quand même sur finalement quelque chose de symbolique, parce qu'évidemment, il y a cet enjeu aussi de la recherche nationale dans les différents États membres de l'Europe. Merci beaucoup à vous trois, Claire Mathieu, Théo Besson et Boris Gralac. Et merci beaucoup à Florence Pons, qui était à la préparation de ce débat du jour. Et merci à Anatole Troidec-Erignac à la réalisation. Allez, coup d'œil à la pendule, dans un peu plus d'une minute, ce sera le grand journal du soir. Et puis, 30 minutes plus tard, Afrique Soir, la première édition ce jeudi. Bonsoir Arthur Ponchelet.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
On peut jeter déjà un coup d'œil au programme qui nous attend dans 30 minutes ?
Eh bien oui, on va scruter comme tout le monde le toit de la cheminée de la chapelle Sixtine. Y aura-t-il une fumée noire ou bien blanche ? Ce soir, ce serait une surprise. On sera en direct avec notre envoyé spécial à Rome pour savoir où en est le conclave qui a démarré il y a quelques heures. On est ensuite à Paris, où Paul Kagame a été reçu ce matin par Emmanuel Macron. Beaucoup de sujets au menu de cette rencontre et d'après nos informations, la guerre dans l'est de la RDC a été évoquée. Dans 30 minutes, on est aussi au Mali, où c'est désormais effectif, la transition suspend les activités des partis politiques. Et puis, suite et fin de notre série de reportages au Soudan, Romain, Gaël Alex nous emmène à la rencontre des déplacés à Port-Soudan.
Ah bah on sera au rendez-vous donc dans 30 minutes, mais pour l'heure, c'est Christophe Paget qui entre. Allez, entrez Christophe en studio, c'est le grand journal du soir qui va suivre. Et on sera évidemment à Rome, on va suivre si la fumée sera noire ou blanche.